Le journal Ramabai.
Bonjour, nouvelle tentative d'évasion à la prison centrale de Bounia en l'espace d'un jour. Celle d'hier n'a pas été sans dégâts. De passage à Bounia, le chef de la MONUC annonce la contribution de son institution pour faire face à la crise qui paralyse cette prison. 200 sacs de farine impropres à la consommation détruits à Guadolité au nord de l'Équateur. Cette marchandise appartient à un commerçant étranger. Journée de la jeunesse, c'était hier à Goma. L'association Union des jeunes artistes, dessinateurs et peintres a eu à exposer leurs différents talents artistiques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il n'a fallu qu'un seul jour pour que les détenus de la prison centrale de Bounia se rebiffent. Après la tentative d'évasion de vendredi, hier samedi, ils ont tenté de s'échapper. Mais les éléments de la police d'intervention rapide ont su maîtriser cette fuite. Cependant, on a dénombré des dégâts matériels. Récit d'Isaac Remoyope.
Portes et grilles des fenêtres cassées, archives de l'administration pénitentiaire brûlées, les derniers stocks en vivres pillés, tel est le bilan avancé par les directeurs de la prison centrale des Bounia. Selon Epicini Laurent, la tentative d'évasion de ce samedi est survenue après un mouvement de soulèvement d'un groupe de prisonniers qui réclamaient la nourriture. Il indique aussi que pendant ces soulèvements, les manifestants ont pris en otage des policiers des gardes. Un mouvement maîtrisé quelques temps plus tard par les éléments de la police d'intervention rapide. Saisi lors de son passage à Bounia ce samedi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a annoncé la contribution de la MONUC face à la crise qui sévit au sein de cette prison ces dernières 48 heures, notamment l'approvisionnement en nourriture. William Lassiswing.
Bon, on a plusieurs suggestions. Il commence avec l'approvision d'urgence de nourriture au plus tard demain. Il y a des stocks qu'on puisse utiliser. On est en train maintenant de les identifier et de mettre en place des mesures pour donner cette nourriture si vite possible. Il faut essayer de voir les autres mesures pour assurer les conditions plus humaines que celles qui existent actuellement.
De leur côté, les autorités locales décident l'ouverture d'une chambre foraine à la prison pour accélérer les jugements des détenus, aussi les transferts à Kinshasa d'une trentaine de prisonniers militaires. De Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Kassai oriental, des agriculteurs du camp 5 de la cité de Cabinda se plaignent de la présence des militaires près de leur palmeraie. Ils accusent les soldats de la 52e brigade d'abattre les arbres et de tirer le vin de palme sans leur autorisation. Ces agriculteurs affirment avoir abandonné près de 2000 hectares en 3 ans. De son côté, le commandant de la 52e brigade, le colonel Ilunga, dit ne pas être informé de la situation. Reportage Esther Dalafina.
Menace, intimidation et tentative de viol, les propriétaires de la palmeraie du site Camp 5, situé à plus ou moins 2 km de la ville, sont la cible des tracasseries des militaires de la 52e brigade venue de Kamana, à environ 80 km à l'est de Cabinda. C'est depuis la guerre que ce site a été transformé en camp militaire, faute de maisons d'habitation pour les militaires. Ils ont construit des huttes et vivent avec leurs familles. Les exploitants de cette concession affirment que certains militaires se livrent à couper les noix et à tirer le vin de palme. Ils abattent les avocatiers et les manguiers pour en faire la braise à vendre. Conséquence, les propriétaires de la palmeraie ont enfin abandonné environ 2000 hectares de palmeraie depuis bientôt 3 ans. Ils ne savent à quel sens se vouer, l'agriculture étant leur activité principale. Contacté à ce sujet, l'administrateur de territoire reconnaît avoir discuté sans succès autour de cette situation dans une réunion de sécurité. Le commandant de la 52e brigade demande aux personnes lésées de contacter ses services. Toutefois, il vient d'identifier un autre site pour ses militaires. Esther Dalafina, Cabinda, Radio Okapi.
200 sacs de farine impropres à la consommation ont été saisis et détruits à Guadolité, au nord de la province de l'Équateur. L'opération a été menée par la Direction générale des migrations et l'Office congolais de contrôle. Cette marchandise a été découverte dans les entrepôts d'un commerçant étranger. Récit Ghislaine Ntobo.
Selon les informations reçues auprès de la DGM, Direction provinciale des migrations à l'Équateur, les 200 sacs de farine impropres à la consommation ont été découverts dans le dépôt d'un commerçant étranger. Des échantillons de cette farine ont été envoyés au laboratoire des Matadi. Les résultats des analyses que Radio Okapi a pu consulter sont clairs. La farine était avariée, impropre à la consommation, elle dégageait une mauvaise odeur et était infestée par des asticots et autres insectes. Toujours selon la DGM, la farine faisait partie d'un lot de 1000 2007 et importé en 2004 déjà vraisemblablement de Dubaï. La date de péremption de 3 mois pour la vente était donc largement dépassée. D'importantes quantités de cette farine avariée ont donc été écoulées sur le marché de Guadolité. Dernièrement, cette farine servait surtout à la préparation de beignets. Il apparaît très difficile de reconstruire les conséquences sur la santé de la population. La DGM a ouvert une procédure contre le commerçant qui devrait être prochainement transféré de Guadolité à Mbandaka. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
Au Maniema, le Fonds des Nations Unies pour la Population a organisé un séminaire pratique de formation dans le cadre du programme conjoint. Ceci à l'intention des médecins et infirmiers de quelques structures de santé. Cela pour une meilleure prise en charge des victimes des violences sexuelles, comme nous l'explique le docteur Mayete Zula Salanga, responsable du FNUAP à Kindu.
Au Maniema, il n'y a qu'un seul médecin qui est spécialiste et qui pouvait au fait prendre en charge les cas de fistules consécutives aux violences sexuelles. Presque la majorité des cas étaient transférés ailleurs, à Goma, à Bukavu. Comme au Maniema, 3 zones de santé ont bénéficié d'un financement dans le cadre des projets conjoints, alors ce sont le médecin de ces hôpitaux et de ces centres de référence qui sont formés dans le cadre des renforcements de leur capacité dans la prise en charge des fistules. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons dit que bien le médecin peut opérer, mais il faut qu'il y ait des prestataires pouvant faire le suivi du malade en post-opératoire. Voilà pourquoi nous avons associé les infirmiers de ces structures où ces victimes seront opérées. Vous savez, les fistuleuses viennent des Kailo, d'Alunguli, des structures de santé, pour que les victimes ne puissent pas chaque fois être déplacées jusqu'à Kindu, alors qu'il y a des gens qui peuvent bien les opérer sur place.
Province orientale, les Boyomés ne savent plus où conserver leurs morts. L'unique morgue qui desservait la ville est tombée en panne depuis 2 semaines. Selon le docteur Adelard Lofungola, médecin directeur de l'hôpital général de Kisangani, son institution s'investit pour remettre cette morgue à l'état. Toutefois, il sollicite l'intervention des hommes de bonne volonté pour la dotation de la morgue d'un bon système de protection. On l'écoute au micro de José Deschartes-Menga.
La morgue était en panne plus de 2 semaines. Le problème, c'était une panne de compresseur due au courant électrique. Parce que quand on a installé la morgue, on n'a pas prévu un système de protection. Mais nous, on a commandé un nouveau compresseur qui est arrivé. On a installé ça depuis hier. La morgue est fonctionnelle, mais nous craignons de démarrer cette morgue-là parce qu'on n'a pas encore trouvé solution au problème du courant. Parce qu'on peut le démarrer aujourd'hui, on commence à amener les corps, mais on n'a aucune assurance pour dire que ça ne fait plus se dédommager d'ici demain. Nous appelons vraiment la bonne volonté de la population de Kisangani, des autorités politico-administratives, s'ils peuvent nous venir en aide. Nous aider avec un système de protection pour la morgue. En tout cas, ce sera le bienvenu à l'hôpital général de Kisangani.
Restons dans la province orientale. 6 motos et 10 vélos, dont du gouvernement destiné au territoire d'Isangui, ne sont pas encore arrivés à destination. Ils sont bloqués à Yangambi, chef-lieu du district de la Tchopo, à 100 km de Kisangani, par la seule volonté du commissaire de district. Ce dernier estime que le gouvernement devrait commencer par doter le district d'un moyen de déplacement avant de penser au territoire d'Isangui, une entité se trouvant au sein de sa juridiction. Le point avec Anselme Massoy.
Cela fait bientôt 2 semaines depuis que le territoire d'Isangui attend ses matériels. Selon l'administrateur de ce territoire, il n'arrive pas à comprendre ces blocages alors que tout est clair sur les documents qui accompagnent ces matériels. Crispin Kakwaka Katombe exprime son inquiétude.
J'ai eu l'information par la voie autorisée, c'est-à-dire le conseiller politique du gouverneur de province, par le directeur de cabinet du gouverneur de province, par le conseiller financier qui avait assuré la distribution, que les motos sont envoyées au territoire d'Isangui. Après avoir contacté les autorités, je suis descendu à Yangambi pour voir le commissaire de district assistant chargé de l'économie, finance et développement qui était parti retirer le moto sous prétexte qu'il avait un hors-bord et il pouvait acheminer ça à Isangui. Mais ce qu'il m'avait dit, m'avait laissé perplexe et je n'ai pas voulu me prononcer. Je suis vraiment dépassé de ce genre de choses.
Pour le commissaire du district de la Tchopo, joint par téléphone, le gouvernement doit revenir sur la destination de ce matériel. Selon lui, ces motos et vélos devraient premièrement lui revenir car il ne dispose d'aucun moyen de déplacement pour gérer les 7 territoires de son district. De son côté, le directeur du cabinet de gouverneur de province qui a présidé la cérémonie de remise de ses biens s'indigne du comportement du commissaire de district. En attendant, il demande à l'administrateur du territoire de lui faire un rapport sur cette situation. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
À Bukavu, dans le sud Kivu, les jeunes du quartier Kassali, dans la commune de Kadutu, ont commencé cette semaine à sensibiliser les habitants de leur quartier à bien gérer l'électricité. Après plusieurs mois de coupure, ces jeunes ont réussi à obtenir de la SNEL, la Société Nationale d'Électricité, une autre ligne de courant électrique. Aujourd'hui, ils veulent donc réglementer la consommation d'électricité pour que leur quartier ne replonge plus dans le noir. Reportage Jean-Baptiste Ntonga.
Au quartier Kassali, une dizaine de jeunes sont rassemblés à la place ancienne Coopéra. Ils circulent dans différentes avenues de leur quartier pour convaincre les habitants d'utiliser moins de courant. Leur objectif, réglementer la consommation électrique afin de sauvegarder leur transformateur pour que leur quartier ne replonge dans le noir. Luku Okoko, président de la synergie des jeunes de Kadutu.
Plus de 50% dans notre quartier utilisent le courant abusivement. On va d'abord sensibiliser les gens pour que la population de Kassali puissent payer leurs factures. Ça, c'est un. Et d'aider pour que les gens puissent éteindre les lampes pendant la journée, parce que ça n'a pas de sens.
En effet, selon cet habitant du quartier, les gens laissent la lumière allumée même en plein jour. Muloko Godefroy, rencontré à l'ancienne Coopéra, s'exprime.
Dans notre culture, les gens n'ont pas encore compris l'économie d'énergie électrique. Il ne faut pas laisser les lampes allumées inutilement pendant la journée. Et il faut aussi payer les factures de consommation du courant. Il faudra montrer à la population qu'il y a des normes à respecter pour que tout aille bien.
En collaboration avec la SNEL, les jeunes de Kassali se sont engagés à décourager la fraude d'électricité appelée daoulage. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la journée mondiale de la jeunesse a vécu à Goma, célébrée le 12 août de chaque année. C'était une occasion pour l'association Union des jeunes artistes, dessinateurs et peintres, UJADP en sigle, d'exposer leurs différents talents artistiques. Un public important rassemblé pour la circonstance a admiré positivement le talent de ces jeunes à travers des dessins, poèmes, musique et théâtre. Sylvestre Kiloul.
Poème déclamé par l'un des jeunes artistes, la salle ciné-cathédrale de Virunga qui a abrité cette cérémonie a connu un afflux du public venu contempler les œuvres si expressives de ces jeunes artistes. C'est sous le thème « Les enfants et la non-violence » que cette journée a été célébrée. Sur les affiches, on pouvait lire et regarder les différentes illustrations des formes de violence dont sont victimes les enfants tels que les mariages forcés, la non-scolarisation des enfants, les silences imposés contre la dénonciation des différentes formes de violence que vivent les enfants. Et j'en passe. Des chansons et poèmes déclamés, mais aussi les sketchs ont relayé ce même message. Et grande était la satisfaction des jeunes artistes.
Nous sommes sûrs que la formation réussie en art nous aidera beaucoup dans notre vie et que l'information concernant les droits de l'enfant, les différentes formes de violence faites aux enfants, avec notamment les moyens de faire face, nous permettra de toujours dénoncer sans perdre aucune tous ceux qui ont fait des enfants leur poids.
Notons que les œuvres qui ont été exposées ce samedi étaient produites en atelier au cours d'un forum des jeunes artistes organisé par l'IJADEP grâce au soutien de la MONUC à travers la section de l'information publique. Pour les délégués de la MONUC, justement, l'art et la musique étaient moyens thérapeutiques pour la jeunesse, mais aussi un moyen d'éducation des masses. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
En bref, à Lubumbashi, chaud d'empoignade cet après-midi au stade de la Kenya, le FC Lupopo reçoit le FC Renachiniento, une équipe équato-guinéenne. Cette rencontre constitue la manche aller du quart de finale poule B de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'équipe équato-guinéenne est dans la capitale du Cuivre depuis hier après-midi. D'après l'entraîneur de cette formation, les joueurs n'ont ni vareuse, ni bottines, ni ballon. Tout l'équipement sportif est resté à Nairobi, oublié au moment d'embarquement par la compagnie qui a transporté la délégation. L'actualité en dehors de nos frontières à Cuba, dans un message diffusé ce dimanche pour son 80e anniversaire, le président cubain Fidel Castro, opéré il y a une quinzaine de jours, fait savoir que son état de santé s'est considérablement amélioré, mais qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de Radio Capi, www.radiocapi.net.